Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Vous et moi sommes inscrits sur des dizaines de services en ligne. Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, les flux RSS, Google Drive, OneDrive, Slack ou encore Deezer, autant de sites sur lesquels nous avons un compte, des données personnelles, des abonnements parfois payants. Ces services ne communiquent pas toujours entre eux et il est parfois difficile de s'y retrouver. Et si on reprenait le contrôle de notre vie numérique. C'est l'idée de l'entrepreneur français Tariq Krim qui lance le site dissident.ai dont nous allons parler dans cette émission. Mais tout de suite, direction la Côte d'Ivoire où un nouveau site d'information vient tout juste de se lancer.
L'atelier des médias à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Elisabeth Lally.
Bonjour Steven.
Vous êtes journaliste en Côte d'Ivoire et vous venez de lancer Tcheladé.info. C'est un site d'information dont vous êtes la cofondatrice donc et la rédactrice en chef. Alors vous avez fait vos classes au journal satirique L'éléphant déchaîné. Pourquoi maintenant lancer votre propre média ?
Nous avons décidé de lancer notre propre média parce que déjà, comme vous avez dit, nous avons fait nos classes à L'éléphant déchaîné et ça nous a donné une vraie passion pour l'investigation, pour ne pas faire que du factuel. Et nous nous sommes dit, puisque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat et que c'est le journalisme que nous avons fait, nous nous sommes dit pourquoi pas investir dans le journalisme, qui est déjà une passion et qui est vraiment un métier dont nous voulons vivre.
Alors vous, vous avez découvert votre passion pour le journalisme en étant blogueuse sur la plateforme Mondoblog, donc des blogueurs francophones. Cette plateforme est gérée par l'équipe de l'atelier des médias de RFI. Est-ce de là aussi que tout est parti ?
Oui, c'est de là que tout est parti parce que c'est en lisant d'abord Mondoblog que je me suis découvert une passion pour l'écriture. C'est en écrivant à Mondoblog que j'ai eu envie d'aller plus loin dans l'écriture, ne pas seulement bloguer, mais faire du journalisme aussi. C'est en étant à Mondoblog que j'ai voulu postuler à L'éléphant déchaîné, que j'avais déjà commencé à lire avant. Donc, je peux dire que l'aventure est partie de là, de créer un site en ligne, puisque j'avais déjà un blog sur la plateforme Mondoblog et que j'avais déjà pas mal appris déjà par rapport à mon propre blog à enquêter et à aller plus en profondeur dans les sujets que je développais. Alors, je me suis associée à Raïssa Yao, d'ailleurs, qui m'a proposé l'idée. Et toutes les deux, nous avons fait nos classes également à L'éléphant déchaîné. Donc, nous sommes ensemble sur la plateforme Mondoblog qu'elle a rejoint l'année dernière. Et donc, c'est ensemble que nous sommes mises ensemble avec trois autres journalistes pour pouvoir créer ce site d'information en ligne.
Alors, que va-t-on lire justement sur Tcheladé.info ?
Alors, Tcheladé.info, en fait, ce que nous ambitionnons, c'est de faire des reportages et des enquêtes. Pas nous consacrer au factuel, bien sûr, en fonction de l'actualité, il peut nous arriver de faire du factuel. Mais ce que nous voulons plus, c'est de faire des enquêtes express sur les sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens, les sujets qui touchent l'actualité ivoirienne, les sujets qui touchent la santé, les petits commerces, les business qui se développent ici, comme par exemple la vente de jus nature d'orange qu'on voit de plus en plus. Est-ce que ça rapporte? Comment ça se passe? Ce sont ces sujets-là, en fait, qu'on peut voir sur le site. Mais vraiment, nous voulons nous consacrer aux reportages et aux enquêtes pour fournir aux lecteurs, en fait, une information complète.
Votre constat, c'est qu'il n'y a pas assez d'investigation dans les médias ivoiriens?
Exactement, c'est ça notre constat, c'est qu'il n'y a pas assez d'investigation dans les médias ivoiriens et c'est justement la plus-value que nous voulons apporter en fait avec notre projet de site internet Tcheladé.
Alors pour l'instant, votre site internet est totalement gratuit. Quel va être votre modèle économique?
Alors déjà, Tcheladé est porté par une entreprise de presse, donc ça veut dire qu'à côté de cela, nous avons des activités liées à notre entreprise. Mais l'idéal pour nous, c'est que le site puisse s'autofinancer. Et pour autofinancer le site, bien sûr, il faut vendre les articles que nous proposons. Mais pour les vendre, il faut que le lecteur qui vient acheter un article sur le site soit sûr qu'il a une information importante, qu'il a une information crédible, une information qu'il ne pourra pas avoir gratuitement ailleurs. Et c'est à ce niveau-là, justement, que nous voulons nous hisser, produire un travail de qualité, asseoir notre crédibilité et pouvoir maintenant vendre l'information aux lecteurs et aux internautes.
Donc l'idée, c'est de faire du contenu à forte valeur ajoutée. Êtes-vous pour cela à la recherche de journalistes ou de partenaires économiques peut-être?
Oui, nous sommes bien sûr à la recherche de partenaires économiques et de journalistes parce que pour faire de l'investigation, pour faire des grands reportages, se déplacer, ça demande bien sûr un financement. Ça demande un financement, bien sûr, ensemble. Nous avons mis ensemble ce que nous avions comme apport, comme finance. Mais déjà, pour pouvoir aller plus en profondeur dans les enquêtes, on a besoin, bien sûr, de partenaires, de personnes aussi qui ont envie de partager cette aventure-là, de faire autre chose dans le journalisme que du factuel, que des reportages ou des résumés de conférences de presse, qui ont envie vraiment d'aller en profondeur dans les sujets qui touchent à l'actualité ivoirienne, qui touchent à la santé des Ivoiriens, qui touchent à la vie de société des Ivoiriens, pour pouvoir mieux les informer.
Et au fait, Tchéladé, ça veut dire quoi?
Alors, Tchéladé, c'est une langue du nord de la Côte d'Ivoire, en le Djimini précisément, et ça veut dire envoyé, ça veut dire émissaire. Nous avons choisi Tchéladé pour dire que nous sommes les envoyés et nous avons mis le D à la fin, qui est jour en anglais, pour faire un genre de mixage entre le Djimini et l'anglais, ce qui fait en fait l'envoyé du jour, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des sujets à suivre dans les prochains jours sur le site tchéladé.info?
Alors, dans les prochains jours déjà, nous avons eu une actualité assez abondante sur la question de la grève des enseignants. Et on assiste au fait qu'il y a un sursis de un mois que les enseignants ont donné au gouvernement pour pouvoir voir s'ils allaient tenir leurs engagements et pouvoir reprendre les cours. Mais si, on ne connaît pas le contenu de la trêve. Il y a une trêve, mais le contenu de la trêve, aucune des parties ne veut dévoiler ce contenu. Donc, nous voulons faire en fait un grand format dans les jours prochains sur où est-ce que la grève a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Nous prévoyons également des questions qui sont relatives à la santé. On a plusieurs sujets comme ça sur lesquels nous travaillons et qui seront dévoilés dans les prochains jours, soyez-en sûrs.
Merci Babette, bonne chance à vous et à votre site d'information Côte d'Ivoire, tchéladé.info.
C'est moi qui vous remercie et bonne journée.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet. http://atelier.rfi.fr.
Avant de poursuivre, voici quelques informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de l'Atelier des médias cette semaine. Depuis 10 ans, YouTube a laissé proliférer les vidéos extrémistes et conspirationnistes. C'est ce que raconte le média américain Bloomberg dans une enquête où sont cités une 20aine de salariés actuels et passés de la plateforme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour grossir la croissance de la lecture de vidéos. Le sujet est tabou dans la société, propriété de Google, qui continue à dire que tout cela est un mythe. En France, le parquet national financier enquête sur un forum organisé en 2015 à Libreville, au Gabon, par le journal Libération. Des mouvements de fonds importants et suspects auraient été constatés, concrètement une surfacturation de l'événement. Les salariés de Libération ont voté lundi une motion de défiance pour signifier leur vive colère et indignation auprès de leur direction. Cela sonne comme un désaveu pour Laurent Geoffrin, directeur du journal. Affaire à suivre. Et puis on vous invite à consulter le guide sur la sécurité numérique de nos amis de Nothing to Hide, un guide qui vous explique comment protéger vos données, vos communications et même garantir votre anonymat. Il est participatif et vous pouvez donc l'enrichir. Tous les sujets dont je viens de parler ont été partagés ces derniers jours sur le compte Twitter de l'Atelier des médias.
atelier@rfi.fr.
Vous ne savez plus que faire de tous les services et sites auxquels vous êtes inscrit ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis un petit peu comme vous. Le web est devenu un océan dans lequel il est parfois difficile de naviguer, voire de garder la tête hors de l'eau. En 2005, Tariq Krim, un des entrepreneurs pionniers du web, crée NetVibes, avec déjà la ferme intention de permettre à l'internaute d'organiser l'information autour de lui, de garder le contrôle. Tariq Krim est aussi une de ces rares personnes en France qui ont une vision et qui savent la mettre en œuvre. Camille Sarrazin est allée à sa rencontre, il explique à notre micro le pourquoi du comment de son nouveau projet, dissident.ai.
C'est le fruit d'une très longue réflexion qui est liée à plusieurs choses. La première, on vit dans un monde qui est fragmenté, c'est-à-dire qu'une partie de notre vie est sur certains services, nos photos étaient sur Flickr, sur Instagram, nos fichiers sur Dropbox, sur Google Drive. En fait, notre vie est fragmentée, j'avais envie de remettre un peu d'ordre et de me dire, voilà, je vais organiser à un endroit l'ensemble de ma vie numérique. Ensuite, il y a une deuxième constatation, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment le contrôle de sa vie numérique. Il y a des fichiers, mais on ne peut pas les lire, on a des choses, mais on ne peut pas les voir, on a des trucs, on ne peut pas les chercher. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire si on, dans cette interface, on va donner aux gens les moyens de chercher, d'ouvrir les documents, d'ouvrir les vidéos. Moi, j'ai par exemple quantité de musique que j'avais téléchargée à l'époque de Napster, et elle dort sur ces... C'est de la musique qu'on trouve d'ailleurs pas sur les plateformes habituelles, hein, Spotify & Co. Et je me suis dit, tiens, ben, c'est un disque dur, je vais l'utiliser comme un disque dur. Et donc, on a commencé à réfléchir et on a créé ce qu'on appelait le desktop, un bureau, qui est une forme de bureau virtuel qui m'accompagne où que je sois, je me connecte dessus et j'ai tous mes stockages en ligne. Donc je peux chercher dans tous mes stockages, je peux ouvrir, je peux faire des choses qui m'intéressent. Et donc récemment, on a lancé un deuxième produit, puisqu'en fait, Dissident.ai, c'est une famille de produits. Chacun d'entre eux a pour objectif de redonner aux gens le contrôle de leur vie numérique. Et là, donc, c'est un produit qu'on est en train de lancer, donc il n'est pas encore officiellement lancé. Mais on s'est posé la même question, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, l'information que l'on reçoit ou que l'on lit provient des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en fait, Facebook, Twitter, choisit à travers les 400 ou 500 personnes qui ont posté quelque chose, il va prendre en général le pire des contenus et me le mettre en avant. Et en fait, moi j'avais l'habitude, quand j'étais plus jeune, et à chaque fois d'ailleurs dans ma vie que j'avais besoin de me ressourcer ou de réfléchir ou de bosser, ben, j'allais à la bibliothèque. Et donc je me dis, tiens, on va construire ce sanctuaire, cette bibliothèque numérique dans laquelle non seulement je vais pouvoir organiser toutes les sources d'inspiration, donc ça peut être les blogs, ça peut être les channels YouTube, en fait toutes les choses qui m'intéressent. Et ces choses que j'ai choisies, en fait, je peux y accéder quand je le souhaite, je peux y accéder de manière chronologique, parce qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que les choses arrivent dans le désordre et c'est fait exprès, parce qu'en fait, on ne veut pas que les gens réfléchissent autant qu'ils perdent sur ces plateformes, donc on leur donne les choses dans un ordre qui n'est pas toujours évident. Donc réorganiser le contenu, pouvoir y accéder, donc pouvoir suivre, moi il y a des, je sais pas, il y a une dizaine de blogs que j'aime bien suivre, mais de manière assez intense, c'est-à-dire que je me suis rendu compte depuis que j'utilise Library que certains journaux que je lisais n'étaient pas, je voyais pas tous les articles, je voyais un truc par-ci, un truc par-là. En fait, en général, c'est le même article qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis mis à lire d'autres choses, découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on s'est dit, bah, si c'est une bibliothèque, on va en faire comme une bibliothèque publique, on va mettre toutes les bases de données possibles et imaginables. Donc on est allé voir toutes les bases de données de domaine public, de livres, de films, et là on a découvert des trésors, et on les a en fait organisés pour qu'on puisse les consulter depuis notre produit. Et donc là on a des millions de livres, des millions de disques qui ont été, des 78 tours, ce qui existait avant le 33 tours, qui ont été numérisés, donc on trouve des trésors de jazz, de musique classique, des choses qui existaient avant les années 60. Des vieux films, des livres dans le domaine public, des audiobooks dans le domaine public, des catalogues de musées, des archives de livres, de magazines, de télé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a tout ce qu'on a appelé un peu le mythe fondateur de l'Internet a été basé sur plein de contenus. Ça devait être la plus grande bibliothèque du monde. Mais dans la réalité, en fait, on passe sa vie sur Instagram à voir les choses les plus débiles du monde. Et donc, on s'est dit, on va faire un peu l'inverse et on va redonner aux gens l'accès à tout ce contenu. L'organiser de manière simple, facile. Et donc, pour nous, en fait, l'idée, c'est de dire que c'est un produit qui respecte ce qu'on appelle les règles du slow web. C'est-à-dire que le slow web, comme le slow food, hein, le slow web vient de l'idée que la technologie, comme la nourriture, on la consomme tous les jours. On est ce qu'on consomme, et en ce moment, ce qu'on consomme sur Internet, c'est pas terrible pour le cerveau. Et donc, on s'est dit qu'il fallait déjà faire des choses de qualité, mais surtout respecter trois règles assez simples. La première, c'est la transparence, c'est-à-dire que ce que le logiciel fait à l'écran correspond à ce qu'il fait dans la réalité. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais quand on like sur une photo, qu'on like telle marque sur un réseau social, en fait, ensuite, on va être retargeté, il y a des algorithmes qui vont... C'est comme ça, d'ailleurs, que l'élection américaine s'est passée. Hein. Tous les gens qui avaient cliqué sur Campbell Soup ont été targetés par les militants de Trump. Donc, il y a une partie qu'on ne voit pas. Et nous, on s'est dit qu'un logiciel de slow web, c'est tout ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement ce qui se passe. La deuxième chose, c'est la transparence, c'est le fait de respecter le temps et l'attention de l'utilisateur. Combien de fois on va sur un logiciel et à un moment donné on se dit « Ah mince, je viens de perdre 10 minutes de ma vie et en fait que je ne retrouverai pas ». Donc on essaye de faire des applications qui sont simples mais qui sont aussi pensées pour être très directes et qui évitent ces boucles de temps, enfin ces déperditions de temps. Et la dernière, qui est à mon avis, la plus importante, c'est la vie privée. La vie privée, ça ne veut pas uniquement dire prendre soin de vos données personnelles. C'est ce que vous faites sur cette application, on vous regarde. C'est votre application, on ne vend pas les données, on n'analyse pas ce que vous faites, on n'est pas dans une logique de monétisation de la personne. Et la contrepartie, qui est pour nous très simple, c'est que le produit est sur abonnement. Donc les gens nous payent, on est à 5 euros par mois. Et avec ça, on donne aux gens des outils qui leur permettent d'avoir accès à l'ensemble de leurs fichiers, l'ensemble de leur culture, et d'en avoir le contrôle. Et donc on est de plus en plus, parce qu'on fait partie d'un mouvement, le Dissident.ai fait partie d'un groupe de plateformes qui pensent qu'il faut réimaginer les produits, pas forcément pour être des produits gigantesques qui vont être utilisés par des milliards de gens, mais plutôt des produits qui sont adaptés à des gens qui ont envie en fait d'une certaine profondeur dans la qualité des contenus, qui ont envie d'une expérience différente, il y a des gens qui regardent les chaînes publiques ou les chaînes commerciales, et puis il y a des gens qui aiment bien les programmes sur Arte. En fait, on se dit que d'une certaine manière, on essaye de faire un Internet un peu plus intello, avec le c'est intello, mais aussi ouvert à tous, hein, mais qui permette aux gens d'avoir une expérience de qualité, une expérience qui ne les contrôle pas, et une expérience qui leur permet aussi de s'émanciper, ce qui était quand même le but primaire de l'Internet, c'est émanciper les gens grâce à la technologie.
De l'émancipation à l'asservissement, il y a un boulevard que certains franchissent. Mais tout est question d'organisation, de rangement. Par exemple, en revenant aux abonnements, faisant la démarche de suivre plutôt que d'être suivi et soumis aux algorithmes.
Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a énormément de sources d'informations. Moi, je me suis remis à lire des blogs. C'est-à-dire de m'abonner à ces blogs, de pouvoir lire toutes leurs publications, ce que je ne pouvais plus faire avant, puisque Facebook ne fait que choisir au hasard de l'algorithme, évidemment, certains contenus qui sont susceptibles de m'intéresser, mais à la fin, il ne me montre que le même type de contenu. Donc, on a besoin de diversité, on a besoin de pouvoir s'émanciper en lisant des avis opposés, en lisant d'autres choses. Et surtout, au niveau des interfaces, on a essayé de créer des interfaces très neutres, c'est-à-dire des interfaces qui ne sont pas faites pour soit appeler votre attention. Par exemple, quand on est sur Instagram, quand on baisse le, quand on tire pour reloader, on attend un petit peu. En fait, c'est le même principe que dans les machines à sous, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces produits ont créé des techniques d'addiction ou des techniques qui sont parfois un peu malhonnêtes. On appelle ça les dark patterns, donc des méthodes un peu douteuses, et on essaye d'éliminer ça. On essaye vraiment de redonner aux gens un logiciel assez simple à utiliser, assez direct, sans rien derrière. Et en fait, revenir un peu au début de l'Internet, parce qu'au départ, avant toutes ces plateformes, avant le mobile, on avait des applications qui faisaient ce qu'elles faisaient et qui ne faisaient pas plus et qui n'essayaient pas de revendre les informations de leurs utilisateurs dans leur dos. C'est ça aussi, ça, revenir à l'esprit original de l'Internet.
Dissident.ai se décline pour le moment en deux services. Donc, le premier pour gérer vos différents stockages en ligne, vous permettant d'organiser et de chercher dans vos photos Facebook, votre stockage Google Drive ou Dropbox. Le deuxième permet, lui, de rassembler et consulter vos abonnements en ligne, que ce soit sur Tumblr, SoundCloud, Pinterest ou encore YouTube. Dissident est donc un outil pour consulter et organiser en un seul endroit l'ensemble de votre vie numérique. Mais Dissident, c'est aussi un nom à forte connotation politique.
Je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait sur Internet est politique. Par définition, tout ce que l'on code est politique. Il y a des gens qui ont, on va dire, je donne toujours l'expression, dire que les grandes plateformes, c'est un peu le McDonald's de la pensée. C'est-à-dire que quand on prend le Big Mac, c'est le même produit dans le monde entier. Que vous soyez en Corée, à Stockholm, à Paris, c'est le même produit fait par contre avec des produits locaux, des salades locales, des frites locales. Et d'une certaine manière, les plateformes ont construit des outils qui sont les mêmes pour tous. On utilise tous le même lecteur d'email, le même lecteur de musique, le même téléphone, le même système, les mêmes notifications. Et donc, cette commoditisation, en fait, cette espèce d'uniformisation du monde et de la culture est un danger. Et le seul moyen de lutter contre ça, c'est de construire des outils qui redonnent aux gens le libre arbitre, la recherche avancée, un peu académique aussi, le fait de pouvoir aller en profondeur dans les sujets, pas uniquement... Aujourd'hui, on partage les articles, on a juste lu le titre, on pense que l'article nous plaît, et donc on le distribue avant même de l'avoir lu. Donc on, nous, on essaie de promouvoir l'inverse, de permettre aux gens de lire plus, de s'informer, de suivre des sources, d'envoyer des sources à des amis pour qu'eux aussi puissent s'informer et avoir un peu plus de profondeur dans leurs réflexions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, plus je passe du temps sur ces outils, plus je me rends compte à quel point les réseaux sociaux nous ont désappris la réflexion, la pensée autonome. Maintenant, en fait, on est dans le prêt à consommer, prêt à partager, prêt à acheter, sans véritable réflexion de notre part.
Parce qu'en fait, comme les plateformes ne changeront pas, c'est vraiment c'est à l'utilisateur de reprendre lui-même le contrôle de sa vie numérique.
Encore une fois, je pense que les plateformes, c'est du junk food aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on veut manger du junk food toute la journée, à tous les repas? La réponse est probablement non. On se voit plutôt comme du bio, comme une vision un peu plus, plus humaine, beaucoup plus artisanale aussi, de la technologie. Donc effectivement, c'est des choix. Je pense que quand on fait des choix dans la nourriture que l'on mange ou la manière dont on va s'alimenter, on doit faire aussi ces choix dans la technologie. Et curieusement, aujourd'hui, je le dis souvent à des amis qui travaillent pour ces plateformes, tu n'aimes manger que dans des restaurants très pointus, avec des chefs, de la bonne nourriture bio, et tu acceptes de développer une technologie qui en fait annihile toute cette diversité culturelle. Et c'est le paradoxe. Et on a essayé de se dire, on va contre ce paradoxe et on va construire l'inverse.
Organiser, reprendre le contrôle et aller vers un slow web, c'est ce que propose donc Dissident.ai, qui est payant, comptez 5 euros par mois.
RFI.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui donne cette semaine la parole à une intoxiquée du web. Elle s'appelle Lucrèce Gandigbé, alias Lucrèce Online. C'est une béninoise installée à Dakar.
Les gadgets électroniques, Internet, les réseaux sociaux sont très utiles au quotidien pour peu qu'on en fasse un usage astucieux. Le problème, c'est qu'il est parfois bien difficile de lever les yeux de son téléphone ou de son ordinateur. Entre les films, les séries, les blogs et tous les outils du web 2.0, on devient très vite cyberdépendant. Moi-même, je l'avoue, je m'entends mieux avec les machines qu'avec les hommes. J'écris mieux que je ne parle. Et même quand je suis là, je ne suis jamais là. Je préfère me recroqueviller sur ma machine et retrouver mes amis en ligne qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Pourtant, Internet nous fait perdre un temps précieux. Alors attention. Attention à ne pas oublier de vivre votre vie réellement, à sortir de cet univers fictif et à apprécier la vie autour de vous. Moi-même, j'ai peur de passer à côté de ma vie parce que je l'aurais vécue seulement virtuellement. À ce qu'il paraît, la première étape de guérison d'une addiction, c'est d'admettre qu'on est accro. Donc voilà, je l'admets, je suis accro à Internet. Est-ce une bonne chose? Je ne crois pas. Ai-je envie de guérir? Je ne sais pas. Mais je crains parfois le burn-out numérique. Pour le sevrage numérique, il nous faut une volonté exceptionnelle pour passer moins de temps sur la toile. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas concerné, je crois que c'est parce que vous êtes encore en phase d'incubation de la maladie. Mais vous portez quand même le mal et il faut guérir. Personnellement, j'en suis toujours à la première étape du processus de guérison. Reconnaître que mon utilisation d'Internet est un problème.
Mondoblog.org.
Vous venez d'entendre la technophile Lucrèce Gandigbé du blog Lucrèce Online et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin et Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On parlera notamment de l'utilisation de WhatsApp par les médias en Afrique francophone. Si votre radio, votre journal, votre télévision, votre site internet utilise WhatsApp pour transmettre des informations au public, écrivez-nous à atelier@rfi.fr. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, et vous pourrez, comme toujours, retrouver dès vendredi en podcast votre émission L'Atelier des médias.